Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison des Chemins de la philosophie qui accueille une nouvelle équipe. Je vous la présente, cette équipe, Pauline Vermeren, David Pargamin, Claire Perriman-Holt, ainsi que ceux que vous connaissez déjà, qui vous restent fidèles, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard et Nicolas Berger, qui réalise cette semaine, avec à la prise de son aujourd'hui, Emmanuel Morse-Duncan. Quant à moi, je me réjouis de vous accompagner du lundi au vendredi, de 10h à 10h59, désormais, et de céder la parole chaque jour à Géraldine Mosna-Savoie pour une nouvelle chronique, le journal de la philo, que vous retrouverez à 10h53. Et enfin, sachez que ces émissions et ces chroniques sont disponibles en réécoute sur le site de France Culture et téléchargeables, podcastables, en un clic. Rien de plus simple pour nous réécouter à votre guise. Voilà, j'ai tout dit. L'essentiel en tout cas, alors, place au reste, au monde qui change sans cesse et à vous qui changez sans cesse. Everything's changed. Nothing remains the same. Everyone must change. No one and nothing remains the same.
Bonjour Heinz Wissmann.
Bonjour.
Quel bonheur de commencer cette année en votre présence. Et vous avez interrompu vos vacances pour venir nous parler à ce micro aujourd'hui.
Je le dois à Héraclite et à cette émission.
En tout cas, cette émission vous est infiniment reconnaissante, Héraclite, je le pense aussi. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, du programme d'enseignement et de recherche sur l'épistémologie des sciences humaines. Vous avez publié en 2001 aux éditions de Minuit avec Jean Bollack, Héraclite ou la séparation. Et c'est la voix de Nina Simone, cette voix chaude, mélancolique et sincère, qui installe l'humeur propice à cette émission. Tout change tout le temps, vivre c'est sans cesse se renouveler. Et c'est parfois un drame pour nous qui voulons que les choses durent un peu. C'est le constat que l'on fait en lisant ce qu'on appelle les fragments d'Héraclite, Heinz Wissmann.
Enfin, c'est un constat tout à fait ambigu, parce que d'un côté, l'accent est mis sur le changement incessant, et de l'autre, quand on regarde les fragments de près, il y a une insistance singulière sur la stabilité du rapport entre les contraires. Donc il s'agit de penser Héraclite à partir de ces deux constats. Il y a un mouvement incessant qui emporte tout et qui fait que la vie, aussi bien que le cours du monde, ne sont pas identifiables à quelque état stationnaire. Mais en même temps, ce mouvement est dû à quelque chose qui semble tout à fait être son contraire, dans la mesure où Héraclite considère que le logos, le discours, le rapport, eh bien, c'est un rapport d'opposition stable.
Donc il y a à la fois un changement permanent et une opposition stable.
Voilà. Et donc, la métaphore du fleuve qui a donné naissance à cette idée que tout s'écoule.
Donc on n'entre jamais deux fois dans le même fleuve.
Voilà.
Cette phrase qui est toujours citée quand on prononce
Exactement.
Le nom d'Héraclite, on pense à cette
Mais
phrase.
Mais cette métaphore du fleuve oblige de penser en même temps la pression des deux rives qui représente la coïncidence des contraires. Puisque les deux rives, d'une certaine manière, c'est la même réalité, mais opposée. Et donc le même est opposé à lui-même. Il y a une sorte de tension interne à l'identité. L'identité se sépare d'elle-même, d'où le titre de notre édition. Eh bien, c'est cette pression qui permet à l'eau de prendre une direction. Sinon, l'eau se répandrait et finalement formerait une sorte de marécage. Alors, pour qu'il y ait flux, il faut tension. Pour qu'il y ait tension, il faut pression. Et cette pression est exercée par les contraires dans la pensée d'Héraclite. D'où la similitude extraordinaire des métaphores du fleuve et de l'arc, et de la lyre. C'est-à-dire, les deux rives du fleuve correspondent aux deux extrémités de l'arc que tend la corde, et c'est grâce à la tension qu'exercent les deux extrémités du bois que la flèche peut partir. De la même manière, la lyre Il y a un fragment où Héraclite fait le rapprochement expressément. Il appelle ça l'harmonie palinthropos, c'est-à-dire qui va d'un côté à l'autre, hein, qui retourne sur elle-même, palinthropos. Eh bien, lorsqu'on joue de la lyre, on pince la corde et les sons s'élancent exactement comme la flèche de l'arc. Ce qui fait que dans l'univers d'Héraclite, on a les deux. On a une stabilité absolue qui fait que, d'une certaine manière, ce qui se passe est contenu dans un rapport de contradiction qui est en même temps un rapport d'identité. C'est le même, d'une certaine manière, qui s'oppose à lui-même pour créer cette tension.
Alors, on a 50 minutes quasiment pour essayer de déplier ensemble ce que vous venez de dire, Heinz Wissmann. La lecture des fragments d'Héraclite provoque chez le lecteur un effet assez indescriptible. Il se trouve face à ces fragments comme face à autant de vers quasiment malarméens où la lecture interpelle et illumine tout en obscurcissant ce qui se trouve devant soi. C'est très étrange, très simple. Hein, on va entendre un extrait des fragments tout à l'heure. Ce sont juste quelques phrases, parfois trois mots, qui en disent énormément. Mais peut-être juste un mot sur ce qu'on appelle ces fragments. Ces fragments n'en sont pas vraiment parce qu'il n'y a pas un tout homogène qui aurait volé en éclats. Ce sont en fait des recollections de certaines phrases traduites et relues par des commentateurs postérieurs à Héraclite. D'Héraclite, on ne sait rien, si ce n'est qu'il a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est ça?
Tout à fait. Non, mais chaque fragment, et le mot fragment d'ailleurs trompe, puisque ce ne sont pas des fragments d'un tout qui auraient été défaits. Chaque fragment est une flèche, au sens où Héraclite entend le mouvement, c'est-à-dire l'impact du fragment est l'essentiel. Il produit chez celui qui le reçoit une sorte d'effet de sidération qui fait qu'il est à la fois atteint au centre et comme déchiré parce que ces fragments produisent très souvent un effet contraire à celui auquel on s'attend. Je prends un exemple, juste le plus drôle, parce qu'il y en a, ça ressemble pas à de la philosophie. Par exemple, le fragment où il dit que les cochons s'amusent sur le fumier. Eh bien, tout dépend de la manière dont on accentue, et c'est vrai pour beaucoup de fragments, dont on accentue les mots. Imaginons le père qui voit son fils se salir en mangeant. Donc, il va dire, c'est les cochons qui s'amusent sur le fumier parce qu'il le qualifie de cochon. Et le fils va lui répondre, mais les cochons s'amusent sur le fumier. Or, ce fragment d'Héraclite a été repris par Démocrite qui a accentué le verbe s'amuse en le remplaçant par un verbe plus fort, font les fous. Et donc, il y a la parole du père, il y a la parole du fils. Et dans la plupart des fragments, il y a la parole d'autorité, qui viennent donc de la tradition philosophique déjà amorcée depuis à peu près un siècle, et la contestation héraclitienne de la pertinence de ce que disent ces grandes cosmologies, ces grandes éthiques philosophiques. Et donc le fragment flèche produit par son impact une sorte de petite déflagration qui nous sépare de nos certitudes.
On retrouve donc, le terme séparé hein, qui vous est
voilà.
si cher.
Il faut avoir l'oreille fine. Et en fait, ça c'est le travail du philologue, les fragments d'Héraclite admettent toujours, par leur syntaxe extraordinairement élaborée, deux lectures. Une lecture simple, qui correspond tout simplement à l'opinion reçue, et une lecture qu'on peut appeler contradictoire, au sens étymologique du terme, puisque le fragment dit le contraire de ce qu'il dit.
Bon, on va prendre un cas particulier. Voici quelques fragments dans votre traduction et celle de Jean Bollack, évidemment, hein, Heinz Wissmann, interprété par le comédien Georges Claisse.
Le monde, le même parmi tous. Pas un, ni Dieu, ni homme ne l'a fait. Mais toujours il était, il est et il sera. Feu toujours vivant qui s'allume suivant la mesure et suivant la mesure s'éteint. Dans les mêmes fleuves, nous entrons et nous n'entrons pas. Nous sommes et nous ne sommes pas. Se transformant, il se repose. « C'est le même qui est là, vivant et mort. Vivant, mourant, la veille et le sommeil, qui sont jeunes et vieux. Car ces choses-ci se renversant, ce sont celles-là. Et celles-là se renversant à leur tour, celles-ci. On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve. Je me cherche.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h11, c'est la rentrée sur les chemins. Nous parlons de changement, de renouveau cette semaine avec aujourd'hui une émission sur Héraclite, Héraclite ou la séparation. C'est le titre que mon invité Heinz Wiesmann, du livre que mon invité Heinz Wiesmann a écrit avec Jean Bollack aux éditions de Minuit. Nous parlons donc des fragments d'Héraclite. Et dans les extraits que nous venons d'entendre, interprétés par Georges Clès, nous avons plusieurs images qui reviennent tout au long de ces fragments, celle du feu. On va y revenir, Heinz Wiesmann, puisque c'est du feu que tout part chez Héraclite, et celle du fleuve et de la transformation à travers les contraires. Restons un instant sur cette image du fleuve, c'est la plus connue. On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve, on ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve, traduisez-vous. Comment comprendre cette image du fleuve? Est-ce qu'on peut identifier le fleuve, par exemple, à une vie individuelle? Et dire que finalement, chaque moment de notre vie est distinct du précédent. Et ce serait une pensée de la singularité absolue, non seulement de la vie individuelle, mais de chaque moment.
En réalité, il y a, dans ce que nous possédons, il y a trois fragments sur le fleuve. L'un décrit le cours des choses, c'est-à-dire c'est le monde entier qui est représenté par la métaphore du fleuve. Et ça, c'est la fameuse phrase « on n'entre pas deux fois dans le même fleuve ». C'est-à-dire les choses n'entrent pas deux fois dans le même fleuve, qui est le cours des choses. Mais en même temps, les individus que nous sommes, eh bien, si nous entrons dans le fleuve, eh bien, il y a d'autres eaux constamment qui affluent. Et nous sommes comme traversés dans la vie humorale, c'est-à-dire la vie qui fait que nous sommes liquides. Eh bien, nous sommes emportés. Et puis, il y a un troisième fragment qui dit que pour ces choses-là qui entrent dans le fleuve, c'est-à-dire nous, puis d'autres, et peut-être même les arbres, les animaux, qui entrent dans le fleuve de l'existence, eh bien, ils sont et ils ne sont pas. Pourquoi ils sont et ils ne sont pas? Parce que, alors nous sommes et nous ne sommes pas, parce que nous ne sommes pas stables. Nous ne sommes pas, de manière simpliste, ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous devenons à chaque instant.
Nous sommes toujours autres que ce que nous sommes.
Mais à partir de quelque chose que nous sommes. Parce que s'il n'y a pas quelque chose d'identifiable, le changement n'aurait aucun sens.
C'est ça. Pour que changement puisse y avoir, il faut qu'il y ait au moins une base stable qui, elle, ne change pas pour pouvoir constater ce changement.
Voilà, exactement. Et donc, c'est ça l'image du fleuve qui fournit, donc, avec la pression des rives, la stabilité qui, paradoxalement, n'est pas repos, mais source de mouvement. Et à la différence de la plupart des présocratiques, Thalès en tête, qui disait « tout est eau », alors là aussi, on est dans l'eau. Eh bien, à la différence des présocratiques, Héraclite considère que le principe, ce que les présocratiques appelaient l'arché, c'est-à-dire le commencement et le commandement, parce que le mot signifie les deux, eh bien, n'est pas en repos. L'arché, au contraire, est elle-même tendue. À cause de cette tension, elle génère elle-même le mouvement qui l'altère. La différence entre Thalès et Héraclite est frappante, et là, c'est la métaphore du feu. L'eau, par exemple, ne devient terre que par une condensation qui lui est appliquée du dehors, devient air, et puis feu, que par une raréfaction qui se produit du dehors, tandis que le feu, comme métaphore du logos des contraires, a la particularité qu'il est deux à la fois. Quand il flambe vers le haut, il laisse descendre vers le bas. Et c'est ça le sens de la phrase, le chemin vers le haut, le chemin vers le bas, un et le même.
Donc, voilà, peut-être que pour essayer de comprendre si ça paraît trop abstrait à certains de nos auditeurs, parce que ce sont des considérations qui sont lourdes de sens et qui ont ouvert la voie vers des considérations métaphysiques de Platon jusqu'à Nietzsche et encore aujourd'hui, on peut ramener ce que dit Héraclite à une réalité qui est celle des éléments, en fait. Eau, air, terre et feu. Et le rapport entre ces éléments explique ce que vous dites et ce que dit Héraclite, à savoir comment deux contraires qui s'opposent vont produire un changement perpétuel. Dans le cas du feu, c'est flagrant. Vous dites la flamme s'élève vers le haut, les cendres redescendent, et c'est de ces deux contraires, de ces deux mouvements contradictoires que naît le feu.
Voilà. Et d'ailleurs, pour bien comprendre le fragment étrange, chemin vers le haut, chemin vers le bas, un est le même, il faut simplement se représenter le mouvement vers le haut que nous accomplissons, et nous produisons le chemin vers le bas en montant, puisqu'on laisse derrière soi la trace du chemin parcouru. Et c'est vrai que quand on avance, d'une certaine manière, on ouvre la perspective du recul. Et c'est ça que le feu représente comme métaphore du logos des contraires, puisque le feu, il va à la fois vers le haut et vers le bas. Et il y a deux mots qui représentent ces particularités dans le mouvement du feu. C'est la faim, ça c'est quand le feu flambe, et c'est la satiété, c'est quand le feu s'éteint dans les cendres. Eh bien, ce fragment, qui n'est pas un fragment, mais une citation faite par un père de l'Église, Hippolyte, eh bien, est réinterprété, et c'est là qu'il y a le piège, est réinterprété par les chrétiens, de manière à ce que le feu n'est pas lui-même, quand il flambe et laisse un dépôt mort qui sont les cendres, mais le feu, comme l'eau, comme l'air des présocratiques précédents, eh bien, il sera un jour auprès de lui, dans une boule de feu, qui n'aura plus de contraire. Ça, c'est la fameuse ekpyrose des stoïciens, qui a été ekpyrose, l'embrasement final du monde, qui a été assimilé par les chrétiens au jugement dernier, ou au feu de l'enfer, si on veut. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que dans la citation du Père de l'Église, le feu a faim quand il est aliéné dans le monde.
Et au moment où vous parlez du feu, votre bouteille d'eau se renverse sur la table. C'est l'eau qui revient.
Il est rassasié quand elle est revenue à lui-même et qu'il n'y a plus rien d'autre que le feu. Eh bien, chez Héraclite, c'est le contraire. Le sens de la faim, c'est quand le feu dévore le combustible. Et le sens de la satiété, c'est quand le feu s'éteint dans les cendres. Et on a des fragments extraordinaires où le koros, qui est le mot qui désigne la satiété, apparaît comme quelque chose qui caractérise les gens qui n'ont plus aucune ambition. Et il y a le fameux fragment 29 qui dit que les meilleurs d'entre les humains vont s'élancer vers l'un, vers le haut, vers la particularité qui est la leur, alors que la foule gît replète comme du bétail. Or, gît replète, c'est kekorentai, c'est le koros, c'est la satiété. Alors, nous ne vivons que si nous avons faim. Pour Héraclite, la tension entre la faim et ce qui reste une fois qu'on a dévoré de quoi alimenter la vie, l'élan de la vie, eh bien, cette tension est constitutive de notre existence, et le feu en est la métaphore.
Into the Fire, c'est ce que nous sommes en train de faire en compagnie d'Héraclite, pour qui le feu est à l'origine de toute chose, et en compagnie d'Heinz Wissmann, le philosophe Heinz Wissmann, qui est avec nous en studio pour en parler. Into the Fire, c'est Deep Purple qui le chante, et voici la voix de Gaston Bachelard qui, à sa manière, nous décrit ce que le feu nous fait.
Pour le feu, comme pour l'eau, on peut d'abord faire état d'un accord unanime sur la poésie naturelle du feu. Avec le spectacle du feu, nous recevons une poésie exubérante, une poésie native, à laquelle aucune âme ne reste indifférente. L'imagination ne se contente pas d'un tableau, elle veut une figure de destin. Le feu est une telle figure de destin. Il naît, il meurt, il est un drame. Et voici que, comme l'eau des profondeurs, le feu appelle un vertige. Il y a un vertige de feu, comme il y a un vertige de la mort dans l'eau. L'eau et le feu sont vraiment des patries de la mort. Le feu est la plus grande image, la plus complète image de l'anéantissement.
La voix de Gaston Bachelard sur France Culture, c'était en 1952. Aujourd'hui, en 2017, il est 10h20. Et cette voix de Gaston Bachelard, Heinz Wissmann, nous signale, est-il finalement une bonne lecture de ce que dit Héraclite du feu, quand il parle du feu comme figure du destin, comme étant la plus complète image de l'anéantissement? Il faut garder en tête quand même que Héraclite est le premier penseur, philosophe, à se saisir du feu comme moteur du monde.
Donc l'anéantissement n'est que l'un des extrêmes qui s'oppose, car le feu est tout autant la vie. L'anéantissement, c'est les cendres, la vie, c'est la flamme.
Bachelard a un Héraclite pessimiste.
Bachelard a un Héraclite marqué par la tradition chrétienne. L'ekpyrose stoïcienne, c'est-à-dire l'embrasement final qui marque la fin du monde, eh bien ça c'est un destin pensé à partir de la tradition chrétienne. Pour Héraclite, il n'y a pas d'embrasement final du monde. Le feu va saisir toute chose, mais pour revivifier sans arrêt les choses qui risquent de rester dans la satiété du repos, inertes. Il y a cette tension que le feu entretient, c'est en ce sens qu'il est comme le ressort intime de tout ce qui advient.
Et d'où vient-il ce feu? A-t-il une origine?
C'est une réinterprétation de ce que les prédécesseurs d'Héraclite avaient soutenu, à savoir que le principe, qui est le commencement et le commandement de toute chose, eh bien, c'est un élément. L'eau pour Thalès, l'air pour Anaximène. Héraclite dit, mais l'eau et l'air, eh bien, permettent de penser l'identité immobile de l'élément qui est rassemblé autour de lui-même et qui ne s'altère que par l'intervention d'un principe qui vient du dehors, la condensation et la raréfaction dans les deux cas. Eh bien, chez Héraclite, c'est le principe lui-même qui, en tant que contradiction, produit les conditions d'une altération infinie. S'il y avait, et le feu a cette particularité que le feu n'existe pas si on isole la flamme de ce qu'elle dévore. Si on veut
le
s'imaginer
feu pourrait être besoin de consommer quelque chose,
mais
de consumer quelque chose.
Le feu
chose
est en contradiction avec lui-même, sans arrêt. Tandis que la boule de feu que les stoïciens et les chrétiens se sont imaginés à l'image de la boule d'eau ou de la boule d'air de Thalès. Cette boule de feu n'est absolument pas ce que Héraclite entend par le feu. Puisque le feu, pour vivre, a besoin d'engendrer la mort. Puisque en consumant le combustible, le feu vit de la mort. Et c'est ça, la coïncidence des contraires. Nous sommes et nous ne sommes pas. Nous ne vivons que si nous ne vivons pas ou si nous faisons quelque chose qui nous entraîne vers la mort.
Le feu ne naît que s'il tue, que s'il consomme autre chose.
Exactement.
Et en même temps, le feu ne doit jamais advenir complètement. Enfin, si le feu est repu, il n'est plus.
Il n'est plus.
Mais donc c'est ça. En fait, le feu est comme une image du désir. Le désir ne peut exister que s'il manque, il y a. Quand le désir est satisfait, il n'y a plus de désir.
C'est exactement ça. Et on peut même, alors, pour tracer encore des parallèles avec une pensée contemporaine, la différence entre le signifiant et le signifié, par exemple. L'idée que le signifiant n'est jamais totalement représenté par le signifié qu'il vise. Il excède toujours le signifié.
Donc le signifiant, c'est le signe, et le signifié, c'est ce vers quoi renvoie le signe,
voilà.
Pour faire court.
Et donc, ce qu'il y a, et c'est la théorie du logos comme discours chez Héraclite. On a oublié, avec la cosmologie du feu, c'est une métaphore. Mais il y a une deuxième métaphore, qui a été importante pour les sophistes, c'est que le réel, c'est le fonctionnement du langage, logos. Ce n'est pas la raison universelle, comme on l'a voulu penser. Le logos, c'est ce qui se produit quand je parle. Or, quand je parle, je vise avec les mots quelque chose que je me représente, mais les mots que j'utilise excèdent toujours, à mon insu, ce à quoi ils se réfèrent. Et c'est ça, la pensée héraclitéenne utilise donc à la fois le feu qu'il emprunte à la cosmologie traditionnelle, pour faire dire aux principes autre chose que les principes antérieurs représentaient, à savoir une identité immobile. Chez Héraclite, non, c'est une tension qui engendre le mouvement. Et la même chose et pour le logos, c'est lorsque le discours se déploie, eh bien, il entre invariablement en contradiction avec lui-même.
Mais ça, c'est lourd de sens ce que vous êtes en train de dire. Il faut essayer de prendre la mesure dans l'histoire de la philosophie de cette thèse héraclitéenne,
voilà,
selon laquelle le langage ne coïncide pas avec le monde. Ça va à l'encontre de la philosophie qui lui succédera, notamment la philosophie platonicienne, qui postule que le logos, l'intelligence, peut dire ce qui est, qu'il n'y a de vérité qu'intellectuelle. Héraclite dit l'inverse. Il dit, nous sommes séparés du monde. Le langage n'est jamais que le langage lui-même, il ne renvoie pas à une réalité ontologique. Ça, c'est voilà. Bouleversant presque de le dater ici, parce qu'Héraclite est le premier à l'affirmer.
Le premier à l'affirmer, ça va être repris par Démocrite et puis par des philosophes. Nicolas de Cuse, c'est très intéressant. Il y a énormément d'héritiers d'Héraclite, mais c'est de la spéculation très élevée. Il ne faut pas croire que c'est simplement de dire oui, tout fout le camp. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dégage une structure contradictoire du réel, quel qu'il soit, et ça s'arrête jamais. On ne peut jamais se reposer sur l'un des deux termes, puisqu'il est toujours relancé par son contraire. Alors, ce qui est si intéressant, je donne cet exemple parce que je trouve que c'est le plus parlant, c'est le fragment dans lequel il dit que le nom de l'arc est vie et son œuvre mort. Eh bien, pourquoi dit-il ça? Parce que dans la langue archaïque, le nom de l'arc, c'est bios, avec un accent sur l'oméga, bios. Et bien, bios, c'est la vie. Or, le paradoxe du langage, c'est quand je désigne un arc pour dire l'instrument de la mort, eh bien, j'utilise un mot sans l'entendre qui veut dire vie. Et donc, le langage fonctionne comme le feu. C'est-à-dire, il entre en tension contradictoire avec lui-même, et beaucoup de fragments d'Héraclite ne sont là que pour attirer l'attention, que l'on n'entend pas vraiment ce qu'on est en train de dire.
On parle de scepticisme aujourd'hui.
Mais scepticisme, c'est encore une position absolue qui ne permet pas, ce que Héraclite prétend quand même atteindre, ne permet pas d'atteindre une structure génératrice de tout sens.
Ah, parce qu'il, oui, il y en a une chez
Héraclite,
c'est le feu.
Il y a une structure, c'est la structure du logos, ou du feu, de l'arc, ou du fleuve, où chaque fois, une pression des contraires rend compte, mais par sa stabilité...
Parce qu'il y a une cosmologie, en fait.
Il y a une cosmologie qui naît de cela, puisque d'une certaine manière, la transformation des éléments les uns dans les autres est commandée par cette tension originelle. Et cette tension originelle, il ne faut pas la séparer de... Ce qu'on dit, quand on dit pantarei, tout s'écoule. Parce que tout s'écoule pas tout simplement. Il y a une espèce de principe de l'écoulement. Puisque l'écoulement en tant que tel, ça veut rien dire. Puisque pour qu'une chose change, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Sinon, il n'y a pas de changement. Et donc, chez Héraclite, il y a les deux. Et c'est le plus difficile. Or, c'est Platon, si vous permettez, je voudrais quand même dire ça. Dans le dialogue le Cratyle, c'est absolument extraordinaire parce que Cratyle se dit héraclitéen et il soutient que le langage reproduit le flux universel. Même les noms des dieux ne veulent dire que l'instabilité du réel. Et Socrate renchérit sur cette thèse du sophiste Cratyle, en disant, oui, ton Héraclite, il aurait dit que tout fout le camp, rien ne demeure. Et l'idée d'une théorie générale du flux vient de là. Platon est le premier interprète d'Héraclite qui met l'accent, mais pour rendre la thèse ridicule, puisque le Cratyle se termine par l'abandon de cette thèse. Eh bien, dans le sophiste,
L'autre dialogue de Platon.
Platon met l'accent sur la tension des contraires et pas sur le flux. Et donc, il a dissocié dans deux dialogues pour combattre la thèse du sophiste, la thèse du flux, ça c'est le Cratyle, et la thèse de la stabilité absolue entretenue par la tension des contraires. Et c'est très intéressant. Si on ne les met pas ensemble, C'est-à-dire, si on ne met pas le flux ensemble avec la stabilité de l'attention des contraires, on rate la pensée d'Héraclite, qui a été littéralement démembrée par Platon. C'est-à-dire, il a pris les deux éléments, il les a traités séparément pour montrer que si on les prend séparément, eh bien, ça ne donne pas une bonne philosophie.
Heureusement, on peut compter sur d'autres philosophes postérieurs à Platon qui ne sont pas forcément d'accord avec lui. Pour rendre justice à Héraclite, Nietzsche en fait partie. Voici un texte que Nietzsche consacre à Héraclite, où il décrit très bien comment finalement au principe de toute chose se trouve le feu, certes, mais surtout un conflit, les contraires, une lutte, dit-il, deux lutteurs qui sans cesse se battent et parfois l'un gagne, parfois c'est l'autre. Et pour lui, c'est une pensée typiquement grecque et typiquement présocratique. Écoutez ce texte magnifique interprété par Georges Clès.
L'opinion commune croit reconnaître quelque chose de fixe, d'achevé, de constant. Alors qu'en réalité, lumière et obscurité, amertume et douceur sont à chaque instant associés et reliés l'une à l'autre comme deux lutteurs dont tantôt l'un, tantôt l'autre prend l'avantage. Pour Héraclite, le miel est à la fois amer et doux, et le monde est lui-même une coupe à mélange qui doit être constamment agitée. Tout devenir naît de la lutte des contraires. Les qualités définies, qui nous semblent durables, n'expriment que la suprématie momentanée de l'un des combattants, mais la lutte n'en continue pas moins. Le combat se poursuit, éternellement. C'est en fonction de ce combat que tout ce qui se produit advient, et c'est précisément ce combat qui révèle la justice cohérente et sévère liée à des lois éternelles. Seul un Grec était en mesure d'inventer une telle conception pour en faire le fondement d'une cosmodicée.
Ce voyage en terre lointaine, présocratique, au pays des lutteurs, au pays où le miel est à la fois amer et doux, c'est en compagnie d'Héraclite que nous le faisons sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h33 et en votre compagnie, Hans Wiesmann. Si on essaye de retracer le chemin que nous avons parcouru pendant la première partie de cette émission, si on part de l'expression bien connue « on n'entre jamais deux fois dans le même fleuve », ça veut dire que le fleuve est un flux permanent. Or, ce flux permanent, pour Héraclite, et c'est assez logique, doit naître de quelque chose qui est l'opposition entre les deux rives, sorte de deux contraires qui s'affrontent et qui font jaillir ce flux qui est ce changement permanent. Pour que changement permanent il puisse y avoir, il faut bien qu'il y ait une chose qui ne change pas pour pouvoir identifier le changement. Le feu est cette image du changement, puisqu'il est à la fois sans cesse en train de brûler, en train de consommer, en train de tuer quelque chose. Il se nourrit de ce qu'il tue, donc il est la rencontre des deux contraires. Et ici, nous avons ce texte de Nietzsche. Vous disiez que c'était un des plus beaux textes de l'histoire de la philosophie qui soit écrit sur Héraclite, et en effet, il est vraiment magnifique, qui semble, lui, dire très simplement comment les contraires, comme une opposition entre deux instances, est à l'origine de tout. Il y a quelque chose presque de rassurant de pouvoir identifier l'origine de tout. C'est ça, peut-être, ce que les présocratiques ont de plus que nous, même que Nietzsche à l'époque, c'est qu'il y a une origine. On peut quand même s'appuyer sur quelque chose.
Enfin, s'appuyer, c'est peut-être un peu trop...
C'est ce qui empêche de tomber dans le scepticisme, en tout cas, ou dans le pessimisme.
Enfin, on peut s'appuyer sur une intelligence des choses alors qu'on est emporté par le cours des choses. Et on est comme le feu. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas ne pas être entraînés dans ce qui nous emporte, mais par l'intelligence de ce qui est en train de se passer, nous pouvons parvenir à ce point fixe à partir duquel le mouvement dans lequel nous sommes emportés devient intelligible. Et c'est donc pas une sorte de repos existentiel, c'est simplement un exploit de la pensée. Or, l'exploit de la pensée, c'est ça que vous voulez dire quand vous dites que les présocratiques nous fournissent quelque chose qui n'a jamais existé sous cette forme. Et si vous me permettez, je voudrais la caractériser, cette chose étrange qui est de pur esprit ou de pure intellection. Eh bien, dans toutes les grandes civilisations du monde, on essaye de rendre compte de la diversité changeante des phénomènes en les rattachant progressivement à des principes, jamais à un principe. C'est-à-dire les plus hautes civilisations parviennent jusqu'à des dualismes. Le Yin et le Yang en Chine, ou le Ahriman Hormuz en Perse, etc. On a ce que Lévi-Strauss appelait les binômes. Dans l'analyse structurale, par exemple, on pouvait rendre compte de la diversité extraordinaire des manifestations de deux principes. Masculin, féminin, chaud, froid,
bien
haut,
mal.
Bas, bien, mal, etc. Or, Thalès, et ça c'est le geste révolutionnaire des Grecs.
Thalès, c'est avant Héraclite ?
Thalès, c'est 7e
siècle.
Fin 7e siècle. Non, Thalès de Milet, c'est Asie mineure, excentré par rapport à la Grèce, hein, c'est les colonies. Et bien Thalès dit, tout, et là je cite Nietzsche dans le même texte, la naissance de la philosophie à l'âge de la tragédie grecque. Or la tragédie, c'est cette tension héraclitéenne dont la situation qu'on a écoutée tout à l'heure fait état. Eh bien Thalès, dit Nietzsche, impose un credo métaphysique. Or le credo métaphysique, c'est que tout est un, et pas deux. Tout est un. Or le problème de cet un, c'est que on doit expliquer comment il devient multiple. Parce que si l'être est un, identique à lui-même, qu'est-ce qui fait que nous sommes entourés de gens et de choses qui changent ? Eh bien, les premières explications sont un peu sommaires. Thalès, c'est ça l'idée de la raréfaction de la condensation, il dit qu'il y a une espèce de tension qui, du dehors, s'applique à ce principe qui se diversifie et qui devient dans les autres éléments et le reste. Chez Anaximène, c'est pareil avec l'air. Mais Héraclite, il va accentuer cette idée qu'à l'origine des choses, il y a quelque chose à comprendre ou à saisir ou à se représenter difficilement, qui produit à la fois son identité et son altération. C'est ça le logos, le feu.
Il permet de penser ensemble l'un et le multiple.
Voilà, le multiple sort de l'un. Et ce n'est pas du dehors qu'il a été produit. Comme chez Empédocle, où c'est l'amour et la haine. L'amour fait que les choses se condensent, la haine fait que les choses se dispersent. C'est toujours la même idée que Héraclite récuse, en considérant que la tension constitutive de tout devenir est déjà inscrite dans le principe. Le principe n'est pas repos. Le principe est tension, combat. D'où la phrase « la guerre ou le conflit, le combat est le père de toute chose ».
Et d'où la phrase sublime, c'est le fragment 84, « se transformant, il se repose ».
C'est ça.
Ce qui est complètement contre-intuitif, on identifie aujourd'hui le repos à l'immobilité. Ici, Héraclite nous dit que non, c'est la transformation qui amène le repos. Comment est-ce qu'on comprend ça ?
Mais parce que dans la transformation, lorsqu'on a l'intelligence de ce qui se passe, eh bien on est comme la flèche, la fameuse flèche de Zénon, qui à la fois vole, mais qui est en repos à chaque instant du vol. Et pour Héraclite, c'est une façon toujours très métaphorique, très imagée, de nous représenter la façon dont, par l'intelligence, nous pouvons accéder à un principe qui, en dépit de ce qui nous arrive constamment, à savoir les altérations d'humeur et des changements divers, eh bien, nous ancre dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence. Ce n'est pas de l'ordre du vécu. C'est l'ordre de l'accès à quelque chose que seule la pensée peut atteindre. Et là où Nietzsche, dans ce texte inachevé, qui place la pensée grecque à travers Héraclite, à l'époque de la tragédie grecque, eh bien là, on a un phénomène, je dirais, de réinterprétation culturelle, dans la mesure où, pour Nietzsche, les Grecs ne pensent que la tragédie de l'existence. La comédie en étant l'autre versant. Or, les fragments d'Héraclite, les fragments entre guillemets,
les aphorismes,
les apophthegmes d'Héraclite, sont à la fois tragiques et cocasses. Et si on perd de vue qu'il se moque aussi constamment et que la tragédie a pour versant opposé mais constitutif de son identité, la comédie, ou enfin, le drame satirique, hein, puisque quand on représentait une tragédie à Athènes, ça se terminait toujours par une reprise satirique qui rendait ridicule ce qui nous avait fait pleurer. Et c'est proprement héraclitéen, hein, selon la pensée nietzschéenne, qui a quand même essayé, dès le départ, dès qu'il a commencé à interpréter Wagner, il a essayé de penser le dionysiaque et l'apollinien comme une tension héraclitéenne.
Le dionysiaque étant cette force obscure, sombre et créatrice, voilà. et l'aide est faite de désir et de pulsion, voilà. Quand l'apollinien est au contraire le masque de beauté, la forme et l'ordre.
C'est l'ordre.
Et dans La naissance de la tragédie, Nietzsche montre comment ces deux contraires, justement, produisent ce qu'on appelle l'esthétique telle que lui l'entend, et que les deux sont nécessaires à l'existence.
Absolument. Et la tragédie, alors on peut toujours poursuivre encore cette réflexion sur le jeu des contraires. C'est ça que j'essaye de dire. C'est que qui dit tragédie ? La tragédie elle-même vit déjà des contraires. Mais la tragédie est encore le contraire de quelque chose qui est en vers, qui est la comédie.
Donc, mais est-ce qu'on peut parler de dialectique, par exemple ? On parle des contraires depuis le début.
Exactement. C'est dialectique, mais la dialectique, si on la prend au sens hegelien.
C'est-à-dire où une chose a besoin de son contraire qu'elle absorbe pour mieux exister. C'est-à-dire il y a une dynamique inhérente à la dialectique.
Pour être tout à fait clair, ce que Hegel considère comme dialectique, c'est la négation déterminée. C'est-à-dire, à partir de quelque chose que je nie, j'engendre son contraire, mais dans ce contraire, la chose niée est encore présente.
C'est ça.
Et donc, la négation déterminée permet ensuite ce qu'il appelle
d'incorporer le négatif.
La synthèse, c'est Aufhebung en allemand, c'est-à-dire un peu, Aufhebung, c'est extraordinaire comme mot, ça veut dire à la fois suppression et conservation, les deux. Et donc, cette dialectique hegelienne est une dialectique qui vise la clôture final, dans la mesure où la négation déterminée va peu à peu synthétiser l'ensemble de ce que nous pouvons identifier comme réalité.
Alors il n'y a pas de synthèse chez Héraclite.
Et si. Chez Héraclite, non.
Voilà.
Et donc la dialectique héraclitéenne, j'utilise un mot d'Adorno, hein, c'est une dialectique négative. C'est pas c'est une dialectique ouverte, proliférante. À l'infini, on peut, dans la réalité que nous essayons de comprendre, dénicher cette espèce de principe de tension qui fait qu'une chose est toujours en conflit avec son contraire et qu'il n'y a pas de synthèse possible. Ce qui résulte de la tension, au contraire, c'est un mouvement infini.
Alors, il y a mille façons de parler de la pensée d'Héraclite. On peut le faire en philologue, en philosophe, à partir de la dialectique négative ou déterminée hegelienne ou par Adorno, de manière très technique, de manière aussi très poétique. Écoutez l'hommage que René Char rend à Héraclite dans son magnifique poème « Héraclite des faits ». C'était en 1948. Hein. On trouve dans le texte « Recherche de la base et du sommet ». Écoutez ce texte.
Héraclite savait que la vérité est noble et que l'image qui la révèle, c'est la tragédie. Il ne se contentait pas de définir la liberté. Il la découvrait indéracinable, attisant la convoitise des tyrans, perdant son sang mais accroissant ses forces, au centre même du perpétuel. Sa vue d'aigle solaire, sa sensibilité particulière l'avait persuadé, une fois pour toutes, que la seule certitude que nous possédions de la réalité du lendemain, c'est le pessimisme. Forme accomplie du secret où nous venons nous rafraîchir, prendre garde et dormir. Le devenir progresse conjointement à l'intérieur et tout autour de nous. Il n'est pas subordonné aux preuves de la nature, il s'ajoute à elle et agit sur elle. Sauve est l'occurrence des événements magiques susceptibles de se produire devant nos yeux. Il bouleverse en enrichissant un ordre trop souvent ingrat. La perception du fatal, la présence continue du risque et cette part de l'obscur comme une grande rame plongeant dans les eaux tiennent l'heure en haleine et nous maintiennent disponibles à sa hauteur. Héraclite est ce génie fier, stable et anxieux qui traverse les temps mobiles, qu'il a formulé, affermi et aussitôt oublié pour courir en avant d'eux, tandis qu'au passage il respire dans l'un ou l'autre de nous. Thank you.
Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, ce texte de René Char sur Héraclite, Héraclite d'Éphèse, interprété par Vincent Schmitt, propose en une phrase peut-être le meilleur portrait que l'on puisse brosser d'Héraclite. Heinz Witzmann, il dit ceci, donc Héraclite est ce génie fier, stable et anxieux qui traverse les temps mobiles qu'il a formulés, affermis et aussitôt oubliés pour courir en avant d'eux, tandis qu'au passage, il respire dans l'un ou l'autre de nous. Ça a l'air si simple quand on lit René Char parce qu'il décrit, alors cette fois-ci non pas la pensée mise en œuvre par Héraclite, mais l'effet reçu par le lecteur.
C'est tout à fait ça. Et je trouve que les reprises d'Héraclite en poésie, alors René Char, c'est plutôt ce versant-là, eh bien, sont plus adéquates en général que les reprises philosophiques qui isolent chez Héraclite soit l'élément de permanence qui est la tension des contraires, soit l'élément du changement qui, absolutisé, comme dans la formule « tout s'écoule », ben, finit par ne plus rien signifier. Parce que la pensée profonde d'Héraclite, c'est de mettre en relation ces deux moments, un moment de stabilité contradictoire et un moment d'altération irrépressible. Est-ce que vous m'autorisez à lire deux phrases de notre commentaire?
Ah ben je vous en prie,
parce que j'avais suggéré qu'on le fasse, parce que ça résume parfaitement. C'est dans le commentaire du fragment « On n'entre pas deux fois dans le même fleuve ». Eh bien, Héraclite établit la relation nécessaire entre ce qui demeure et ce qui s'en va. Ce qui demeure, c'est la tension des contraires, c'est le logos, le feu, tout, hein, et ce qui s'en va, c'est l'eau qui s'écoule dans le fleuve, dans le lit du fleuve. Donc, entre ce qui demeure et ce qui s'en va, entre le lit et le courant, comme pour l'arc. La tension immobile des contraires produit l'élan différencié du mouvement. Sans la courbure du bois qui maintient la corde, les flèches ne partiraient pas. Sans la pression constante des rives, les eaux stagneraient. Parce qu'ils illustrent également la construction logique du passage de l'opposition à la succession, l'arc et le fleuve servent de chiffre au processus cosmique. Je trouve que c'est intelligible.
Tout à fait. C'est une interprétation qu'on trouve dans le livre que vous avez publié avec Jean Bollack, hein, Héraclite ou la séparation aux éditions de Minuit. Et vous faites de cette séparation, parce que vous avez beaucoup insisté sur les contraires, la contradiction, les opposés qui s'affrontent. Mais finalement, c'est le terme de séparation qui saisit au plus près le geste d'Héraclite, qui est une séparation entre l'homme et le monde, mais aussi de l'homme à lui-même. Et peut-être on peut terminer sur cette idée. Il y a chez Héraclite une pensée extrêmement intime, mais comme bien souvent, ce sont les pensées les plus subjectives, les plus personnelles, qui sont les plus universelles. C'est-à-dire qu'il passe son temps à dire quand même à quel point il est séparé à lui-même.
C'est ça.
Et cette pensée du repos impossible est une manière de traduire cette sorte d'intranquillité qui nous anime. On parlerait d'angoisse aujourd'hui, d'inquiétude. Et il y a le fragment 101 qui le dit en une phrase, il dit « Je me cherche ».
Tout à fait. Et peut-être pour finir, dans loufoque, parce qu'il y a des fragments loufoques, Héraclite aurait dit, le jour où il était couché dans le fumier pour se réchauffer par la chaleur de la décomposition des matières vivantes, près du temple d'Artémis, en nord d'Éphèse, il aurait dit « couché le soleil à la taille de mon pied ». Or, dans la spéculation présocratique, on a toujours essayé de savoir si le soleil avait la taille apparente ou que sa taille véritable était cachée par son apparence, qu'il était 5 fois plus grand, etc. Eh bien, Héraclite, qu'est-ce qu'il fait? Couché, il lève son pied, il couvre l'image du soleil et il soutient que la vraie taille du soleil est celle de son pied qui la dérobe, puisqu'on ne voit plus le soleil. Et donc, c'est le contraire du soleil qui lui assigne sa taille. Ça devient loufoque.
C'est une éclipse du pied, oui.
C'est le pied. Et alors, ce genre de phrase, chez Héraclite,
reprise par Spinoza plus tard, mais cette fois-ci avec la main, justement.
Avec la main, par exemple.
Ce qui est drôle ici, c'est qu'il se sert du pied.
Et c'est très intéressant de se dire que Héraclite est capable de nous suggérer que ce que nous reconnaissons, plutôt que de chercher spéculativement quelque chose qui serait positivement autre, Il dit non, ce que nous reconnaissons comme étant, eh bien, nous le reconnaissons véritablement si on passe par son contraire. C'est ça la dialectique négative d'Héraclite. À travers le contraire, je saisis ce qui peut être identifié. Mais comme c'est à travers le contraire, il y a une tension. Et cette tension-là produit cet effet qu'on appelle le mouvement ou le changement.
C'est à tous les hommes qu'il est dévolu de se connaître soi-même et de bien penser.
Que mon clocher est la clairière. Quelle est cette voix familière qui chante amis approchés? C'est ma rivière, approchez, écoutez. Au fil de l'eau, les heures qui passent parlent du passé qui s'efface, du temps qui va nous quitter. C'est ma rivière, approchez, écoutez. D'où murmure des oiseaux, d'où frissons de roseaux. Dans le vent qui dit toujours des mots d'amis, des mots de si jolis mots d'amour. Mieux que mon clocher près de la clairière, quelle est cette voix familière qui chante? Amis approchés, c'est ma rivière, approchez, écoutez.
J'y pense, Heinz Wittmann, j'insistais sur la multiplicité des interprétations, des lectures possibles de ces fragments poétiques, littéraires, philosophiques, philologiques. On pourrait les mettre en chanson. Je suis sûre que, au style de Charles Trenet, ça marcherait très
ça
bien,
marche
non?
Ça marche très bien.
Hein? Bon, bah vous avez essayé, non?
Pas moi.
Bon, ah bah vous me direz.
Mais j'écoute.
D'accord, très bien. Merci en tout cas, Heinz Wittmann, d'être venu nous parler d'Héraclite aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir, comme à chaque fois. Héraclite ou la séparation, c'est le titre du livre que vous avez écrit avec Jean Bollac aux éditions de Minuit. Puis, va paraître De vous en janvier, cette fois-ci écrit avec Étienne Klein, l'ultimatum de Démocrite au boson de Higgs. Et au-delà, ce sera aux éditions Albin Michel. Sur France Culture à 10h53, il est l'heure sur les notes de piano de Charles Trenet de retrouver Géraldine Mesnin-Savoie pour sa nouvelle chronique, Le Journal de la Philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette nouvelle saison des Chemins de la Philosophie et puis aussi pour ce nouveau format, ce nouveau journal de la philo.
Alors voilà, vous connaissez pour les 2 minutes papillon, donc cette fois-ci ce ne sont plus les 2 minutes, mais le journal de la philo, ça consiste en quoi?
Alors l'idée c'est assez simple, c'est d'ouvrir à l'actualité de la philosophie au-delà de l'actualité éditoriale. Alors bien sûr, il sera toujours question des parutions d'essais, originaux ou classiques de la philosophie, pour saisir les nouveaux concepts et ceux dans l'air du temps, mais ce sera aussi l'occasion de voir ce qui se fait sous d'autres formes, des événements, des colloques, des spectacles, des exposition, ce qui se fait dans d'autres pays ou du côté des grandes figures dont les anniversaires peuvent marquer les esprits. Puis enfin, l'actualité de la philo, c'est aussi le regard posé par des philosophes sur l'actualité elle-même.
Excellente idée, Géraldine, que ce journal de la philo. Avec quoi commencez-vous ?
Eh bien, aujourd'hui, c'est un hommage au philosophe Jean-Paul Curnier, puisque quelques jours après que l'on a appris la terrible nouvelle de la disparition de la philosophe et psychanalyste Anne Dufour-Mantel fin juillet, début août, nous apprenions celle de Jean-Paul Curnier, âgé de 66 ans et auteur d'une œuvre pléthorique.
Philosophe artiste, ça pourrait que me combler. Je crois que c'est vrai qu'il y a, depuis à peu près une vingtaine d'années, ou une trentaine d'années, quelque chose qui apparaît comme ça chez les philosophes. Cette évasion, elle ne s'est pas contentée de créer un autre style ou d'essayer de faire passer dans la littérature ou dans la musique de la philosophie, mais de trouver dans la littérature ou dans la musique ou dans les autres arts, ce à quoi la philosophie ne suffisait plus.
Alors pour présenter Jean-Paul Curnier, on pourrait donc le dire philosophe artiste, mais on pourrait aussi ajouter qu'il était écrivain de plusieurs dizaines de textes littéraires, nouvelles, poèmes, romans et pièces de théâtre, photographe aussi, acteur chez Jean-Luc Godard et Minelli, et oui, et lui-même vidéaste, un ancien bassiste aussi, cofondateur des éditions Léo Cher, notamment de leur revue Ligne, et puis spécialiste du roman existentialiste. En fait, on pourrait dire qu'il était un philosophe à l'écart paradoxalement de la philosophie en tant que telle, car ce qu'il aimait, c'était en faire, mais ailleurs, en dehors de son champ, comme ici, comme on va l'entendre, à travers une création radiophonique pour France Culture en 2013.
Les événements de ces derniers jours nous ont surpris comme tout le monde, mais nous avons fait l'impossible, équipe, direction, techniciens et journalistes, pour pouvoir vous tenir informés au plus tôt. La liaison n'est plus qu'une affaire de seconde. Dans quelques instants, nous allons pouvoir joindre Madelon Sylvabel qui... Ah oui, ça y est, je crois que le contact a pu être établi avec le camp de la rive gauche. Madelon, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Madelon, quelques mots tout d'abord, si vous le voulez bien, sur ce que vous pouvez voir sur place en ce moment et depuis que vous êtes arrivé.
Eh bien, ici, c'est un peu comme à Saint-Hyacinthe, comme à Argelès et en Dordogne les jours précédents. Tout semble imprégné par la proximité d'une terrible catastrophe. Tout y paraît suspendu, tout y semble façonné par l'écho puissant et silencieux d'un désastre survenu il y a peu.
La vie recommencée, c'est le titre de ce feuilleton quotidien que Jean-Paul Curnier avait écrit pour France Culture. Le synopsis en était simple. Raconter le journalisme, dessiner la figure du journaliste, celui qui par définition doit être soucieux d'avoir bien posé toutes les questions qui se posent. Un synopsis simple donc, mais à l'image de l'œuvre de Jean-Paul Curnier, à l'image de son geste aussi, comme quand il philosophait à l'arc.
Lorsque on se tient attentif au fait de se servir d'un arc, de prendre un arc et de le mettre dans sa main, et de s'exercer à tirer avec un arc, si on s'abandonne à ce qui se produit là, il y a peut-être d'autres chemins philosophiques qui se présentent à l'esprit. La seule question, c'est de ne pas les répudier a priori, quelques formes qu'ils prennent, et de les admettre, de les laisser se développer à l'intérieur de soi.
Poser toutes les questions qui se posent, mais les poser aussi autrement, qu'il s'agisse de la culture, de l'art, de l'invisible, de tuer pour manger, de la mort tout court, du pouvoir et de la démocratie, c'était dans Prospérité du désastre et son dernier essai, La piraterie dans l'âme, mais aussi parler de l'identité, de l'étranger, en nous réveillant de notre sommeil, en évitant que l'on soit, je cite, comme des peluches ou des enfants. Eh bien, c'est ce qu'a fait Jean-Paul Curnier, c'est ce qu'il a proposé de faire, la pensée tel un arc, toute tendue et tournée moins vers soi que vers l'autre.
Bravo Géraldine, parce qu'en plus vous faites un lien direct avec l'émission sur Héraclite qui vient d'avoir lieu avec Anne Wiesmann, n'est-ce pas Anne Wiesmann ? On retrouve la pensée de l'arc. Bien merci pour ce journal, on a hâte de vous retrouver demain et donc c'est une chronique qu'on peut réécouter en ligne et télécharger.
Sur le site de France Culture et il y a une page dédiée à ce journal de la philo.
Quelle bonne nouvelle ! Merci à tous, les chemins touchent à leur fin. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur le changement, le nouveau, du renouveau. Quoi de neuf sous le soleil ? Quoi de nouveau sous le soleil ? Et bien demain justement nous parlerons de l'Ecclésiaste, où nous trouvons cette phrase « Rien de nouveau sous le soleil », phrase énigmatique s'il en est, et pourtant reprise tout au long de l'histoire de la pensée. Et bien ce sera le professeur de philosophie Denis Moreau qui viendra nous en parler. D'ici là, bien sûr, rendez-vous sur notre compte Twitter et notre compte Facebook où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. Et puis rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie pour télécharger cette émission et la réécouter à votre guise.